Ça jazz à Lyon avec Slim Mazni.
Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Ça jazz à Lyon. Je reçois ce matin Richard Schintli, journaliste au Progrès et correspondant pour le journal Le Monde sur la région Rhône-Alpes. Richard Schintli, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous sortez ces jours-ci un livre référent sur l'affaire Néré, Commissaire Néré, chute d'une star de l'anti-gang aux éditions Talendier. Le procès s'ouvre ce lundi matin. Qu'est-ce qu'il faut attendre du procès de l'affaire Néré?
Ce qu'on peut attendre de ce procès, c'est peut-être d'arriver à comprendre comment un policier de son rang et de sa réputation a pu se retrouver dans cette situation-là, c'est-à-dire soupçonné de corruption. Donc les débats vont peut-être nous éclairer sur la question de savoir si c'est un policier qui a vraiment franchi la ligne jaune, qui s'est laissé emporter par ses relations troubles, ou au contraire, si c'est un policier qui a été injustement poursuivi, qui a peut-être été la cible d'un règlement de compte interne. On va peut-être se faire une idée plus précise sur les raisons des poursuites à son encontre.
Dans votre livre, il n'y a pas de thèse, c'est-à-dire vous ne privilégiez aucune piste, vous laissez à l'appréciation du lecteur le dossier de l'affaire Néré. Il reste qu'on a l'impression quand même que Michel Néré est victime d'un changement d'époque, d'un changement de mœurs au sein de la police, qu'il a continué à utiliser de vieilles recettes policières et que finalement il n'a pas vu le monde changer autour de lui. Est-ce que c'est une vérité de l'affaire Néré?
Oui, pour moi c'est un volet de l'affaire Néré assez important. C'est pas le seul, mais c'est un volet important, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a dirigé la brigade anti-gang de Lyon pendant 20 ans. Une unité de police un peu spéciale. La brigade anti-gang, c'est un monde très fermé, très clos, avec des méthodes d'enquête particulières qui ont été spécialement créées à la fin des années 70 pour lutter contre le grand banditisme. Et c'est vrai que toute sa carrière, il a non seulement innové, mais j'allais dire, il a instauré une nouvelle doctrine policière qui consiste...
La doctrine du flag.
La doctrine du flagrant délit qui consistait à suivre des grosses équipes de voyous pour les attraper au moment voulu. Et donc, cette technique-là, elle supposait des contacts très étroits avec des informateurs, une culture de l'information. Et toute sa carrière, il a surfé un petit peu sur cette ligne jaune, hein, sur cette ligne de frontière entre la police et entre le monde des voyous. Donc oui, pour répondre à votre question, ce procès sera peut-être un peu le procès de ces pratiques qui sont aujourd'hui un peu révolues. On a créé un bureau central des sources, on ne tolère plus des pratiques un peu douteuses, mettre des stupéfiants de côté, etc.
Bureau central des sources qui sert notamment à répertorier l'ensemble des informateurs des services de police. Et Michel Néré s'affranchissait de ce protocole administratif. Parfois, il ne rentrait pas ses sources dans ce fichier central.
C'était pas son époque. Voilà, c'était pas ses habitudes. Et c'est vrai que je raconte une anecdote dans le livre. À un moment donné, on va lui présenter ce nouveau fichier. On va lui dire qu'il faut remplir des petits formulaires, qu'on peut rémunérer des informateurs. Et lui, il va dire, ben non, tout ça, c'est du bibi fricotin.
C'est son expression.
Ouais. Donc lui, il avait pas l'habitude d'immatriculer ses informateurs. Donc il va rester un petit peu dans cette position-là. Sauf que son poste a changé. Il est directeur adjoint. Et sauf que l'époque ne tolère plus tellement. On vit dans une époque de rigueur, de transparence, et on ne tolère plus ces pratiques. Et ça, peut-être qu'il ne l'a pas vu venir.
Vous avez côtoyé Michel Néré, vous êtes sans doute le journaliste qui le connaît le mieux. Ça vous a surpris, sa chute, quand c'est arrivé? Ça a été un coup de tonnerre?
Bah oui, bien sûr, complètement. C'est-à-dire qu'on est sidéré. On ne s'attend pas du tout. Alors, le matin, on voit des messages, on apprend que le numéro 2 de la police judiciaire de Lyon est placé en garde à vue. Tout de suite, on cherche à comprendre ce qui s'est passé.
Vous qui le connaissez depuis près de 15 ans, vous ne l'avez pas vu dériver, comme certains le prétendent, à la fin, sur les dernières années? Alors, vous n'avez pas constaté ce lent processus de délitement, finalement?
Je ne dirais pas ça comme ça. Ce que j'avais constaté, c'est vrai que Néré, devenu directeur adjoint, était un poste, pour parler franchement, qui l'ennuyait un peu. C'était un poste un peu administratif. Et on sentait bien, à quelques mois de la fin de sa carrière, de sa retraite, que l'adrénaline de l'action lui manquait, que la façon de mener les hommes lui manquait, d'aller voir les dispositifs à l'aube, etc. Toute sa carrière, il avait vécu dans cette ambiance-là. Et on sentait bien qu'à la fin, c'est quelqu'un qui n'était plus tout à fait à l'aise dans ses nouvelles fonctions. Voilà. Mais entre un policier en fin de carrière, si vous voulez, qui se laisse un petit peu aller, et l'affaire qui va lui tomber dessus, il y a quand même une marge. Et ça, moi, j'étais loin de l'imaginer.
Il explique en permanence, Michel Néré, face aux juges, face aux enquêteurs de la police des polices, que ses relations avec ce milieu trouble, là, ce milieu d'informateurs issus du milieu juif, c'est ce qu'il dit. Lui, ce qu'il voulait, c'était pénétrer ce milieu qu'il connaissait assez mal. Est-ce qu'il a été entendu, parce que l'enquête est à charge et à décharge, mais est-ce qu'il a été entendu par le magistrat instructeur qui a enquêté sur cette affaire?
Oui, il a écouté, mais on n'a pas l'impression que les magistrats parisiens l'aient pris en compte. réellement, et ça va être un enjeu du procès qui s'ouvre. Hein. C'est-à-dire que la ligne de défense de Michel Néret est de dire, voilà, moi j'entretiens des relations avec des voyous, il faut que j'acquière leur confiance, ça suppose des relations, ça suppose d'aller les voir chez eux, etc. Donc c'est sa ligne de défense. Est-ce que cette défense-là va résister à l'épreuve du procès? Est-ce qu'elle va résister au fait qu'il a quand même accepté des séjours assez nombreux, qu'il a accepté aussi des voyages payés, tout frais payés. Donc ces éléments-là vont s'accorder avec sa thèse, c'est pas du tout évident. En tout cas, on a l'impression que les juges d'instruction n'ont pas donné de crédit à cette ligne de défense.
Qu'est-ce qui a changé depuis l'affaire Néret? On a vu beaucoup de procès à la suite de l'affaire Néret où il y a eu des dénonciations de méthodes policières. Il y a eu même des présidents de chambres correctionnelles qui ont dénoncé un certain nombre de dérives policières. Qu'est-ce qui a changé depuis l'affaire Néret? On sent que la PJ s'est recroquevillée sur elle-même aussi. On sent plus de crispation des uns et des autres, également au parquet. Qu'est-ce qui a pu changer dans cette ville où le milieu est toujours actif, une culture policière toujours vive? Qu'est-ce qui a changé? Vous connaissez bien ce milieu-là.
Ce qui a changé, c'est que ça a été un traumatisme, cette affaire. C'est-à-dire que tous les enquêteurs, alors non seulement de la brigade anti-gang, mais beaucoup plus largement de la police judiciaire au-delà, c'est-à-dire tous les enquêteurs amenés à travailler sur des terrains difficiles, en contact avec des personnages un peu troubles, ont été vraiment refroidis dans leurs ardeurs. C'est-à-dire que là, on a senti très clairement dans les mois et dans les années qui ont suivi l'arrestation de Michel Néret un changement dans les méthodes d'enquête. C'est-à-dire que les policiers aujourd'hui n'ont plus du tout envie de prendre de risques, n'ont plus du tout envie de se retrouver dans des positions délicates parce qu'ils sentent bien qu'ils ne vont pas être couverts ou protégés par leur hiérarchie. On l'a senti.
Au détriment de résultats?
Oui, c'est toute la question. C'est-à-dire... qu'est-ce qu'on donne comme moyen, comme marge de manœuvre à la police pour qu'elle ait des résultats? On s'est toujours félicité des résultats de Néret jusqu'au moment où on s'est dit on n'a plus toléré certaines pratiques. Bon, aujourd'hui, l'époque a changé, on ne le tolère plus. Et moi, j'observe que les enquêtes, notamment de la brigade anti-gang, ne sont plus sous le même modèle. Néret, c'était l'infiltration de réseaux, c'était des réseaux entiers qui étaient démantelés après des mois d'enquête. Aujourd'hui, c'est des enquêtes qui sont beaucoup plus courtes. C'est quelques semaines, de courts mois sur des équipes de trafiquants, par exemple, des go-fast qui sont stoppés, mais pas forcément des réseaux entiers démantelés. Donc la nature des enquêtes ont changé.
Merci Richard Chitli. Votre livre Commissaire Néret, chute d'une star de l'anti-gang aux éditions Talendier est disponible dans toutes les librairies et cet entretien est à retrouver en intégralité sur le site d'information lyonmag.com.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec lyonmag.com.